Bonjour chers auditeurs, c'est dans le cadre de l'opération Make Your Europe, un projet pour mieux comprendre l'Europe, porté par plusieurs intervenants et associations de la Nouvelle-Aquitaine et bien entendu soutenu par le Parlement européen, que nous vous présentons aujourd'hui notre nouvelle rubrique qui sera consacrée à l'Union européenne. C'est un programme d'émission mensuel auquel je vous invite de nous retrouver jusqu'au mois de mai, date des élections européennes. Alors aujourd'hui, nous recevons dans ce cadre-là notre premier intervenant. Il s'agit de Carlos Manuel Alves, maître de conférence en droit public, chercheur au Centre de recherche et de documentation européenne international, membre du Centre d'excellence Jean Monnet à la Faculté de droit de sciences et politiques de Bordeaux. Bonjour Carlos, comment allez-vous ce matin ?
Bonjour, très bien, je vous remercie.
Donc, on va entamer ce petit cycle d'interviews radiophoniques par vous. Dans le cadre, vous l'avez compris, de ces futures élections européennes et pour permettre à tous nos auditeurs de mieux appréhender le rôle et les compétences du Parlement européen. Le 26 mai prochain, nous allons donc avoir droit à ces élections pour les futurs députés européens. Alors, pour vous, la première question que je peux vous poser, c'est quel est réellement leur pouvoir et quel est vraiment leur rôle dans le Parlement et comment peut-on, nous, le ressentir ici à notre échelle locale ?
Alors, les parlementaires européens, après les prochaines élections, seront au nombre de 705. Il y a le Brexit qui va intervenir, donc ils sont 751 aujourd'hui. Ces députés européens, initialement, ils avaient très peu de pouvoir en 1979, lors des premières élections européennes, mais aujourd'hui, le Parlement européen a des pouvoirs qui ressemblent assez largement à ceux des parlements nationaux, c'est-à-dire que les parlementaires européens vont voter la loi européenne, entre guillemets, c'est-à-dire les règlements et les directives. Ils vont voter le budget de l'Union européenne, et donc ils vont participer à la ventilation des dépenses, à la répartition des dépenses, par exemple entre la PAC, subvention agricole, la France est largement bénéficiaire de la politique agricole commune, la PAC peut être consacrée à la PAC, et puis le Parlement européen sert aussi à contrôler la Commission européenne. Le Parlement européen peut voter une motion de censure, comme on peut voter une motion de censure au niveau national contre un gouvernement pour faire démissionner la Commission européenne si jamais il y a un désaccord politique ou un scandale, comme ça avait pu être le cas avec la Commission Santer d'ailleurs dans les années 90, qui avait démissionné d'ailleurs sous la menace d'une motion de censure.
D'accord. Donc on comprend bien le renforcement des pouvoirs dans le temps du Parlement, mais bien entendu à l'échelle locale que nous représentons ici, on entend souvent dire que c'est un petit peu l'Europe et la Commission, il y a déjà une confusion entre la Commission et le Parlement, il y a un amalgame qui est régulièrement fait. On entend dire que c'est donc la Commission européenne qui décide de tout. En fait, qu'en est-il ? Vous venez d'expliquer que parfois elle est soumise à un contrôle du Parlement. Donc est-ce qu'on peut expliquer la différence d'intervention de ces deux organismes qui gèrent l'Europe ?
Alors, la Commission européenne, justement, ses liens avec le Parlement ont été renforcés depuis le traité de Lisbonne, donc le dernier traité adopté en 2007. Et le président de la Commission européenne est désormais choisi à la fois par les États et par le Parlement européen à l'issue des élections européennes. C'est-à-dire que la majorité qui va sortir des urnes au mois de mai prochain va permettre de choisir le président de la Commission européenne. Il faudra que ce soit un membre du premier parti arrivé en tête aux élections européennes. Donc il y a ce lien déjà, premièrement. Et ensuite, la Commission européenne, pour sa part, elle a largement un rôle de gardienne des traités. Elle est là pour vérifier que les règles sont bien respectées.
D'accord, effectivement.
Donc elle va vérifier, par exemple, que les GAFA, par exemple, ces fameuses GAFA, les Google, Apple, Facebook, Amazon, elles respectent bien les règles de la concurrence. Si c'est pas le cas, il peut y avoir des poursuites au titre droit à la concurrence et à imposition d'amende. Et puis la Commission européenne, elle sert aussi à proposer des lois européennes, mais elle ne fait que poser. Ce sont ensuite les États et le Parlement européen qui décident. Et d'ailleurs, ce rôle de proposition, il est en partie lui aussi sous influence, si je puis dire, dans la mesure où 9 propositions sur 10 de la Commission européenne lui sont entre guillemets suggérées par les États, le Parlement européen, la société civile. Voilà, donc la Commission européenne ne fonctionne pas en vase clos, elle est en interaction et notamment avec le Parlement européen.
On voit effectivement que la Commission et l'Union européenne servent parfois à nos responsables politiques de boucs émissaires rendus responsables de beaucoup de décisions impopulaires pour telle ou telle raison. Est-ce vraiment la réalité de ce qu'on nous nous prétend de voir la Commission et l'Union européenne être comme un petit peu supranationale, qui s'impose, un organisme qui s'impose aux décisions nationales.
Alors, vous avez raison, c'est vrai qu'on entend souvent dire Bruxelles décide de ceci, Bruxelles décide
exactement
de cela. C'est vrai, si je puis dire, c'est un peu court dans la mesure, en fait, c'est Bruxelles, c'est Paris, c'est Rome. En fait, ce sont les États. Ce que je veux dire par là, c'est que ce sont les États qui décident. C'est, quand on dit Bruxelles décide, oui, parce que la Belgique participe de la décision. Donc ce sont largement les États qui décident avec le Parlement européen.
D'accord.
L'Union européenne, en fait, elle repose sur un système de double majorité. Quand une règle était adoptée à l'échelle européenne, c'est qu'il y a eu une majorité d'États et une majorité de députés européens qui ont voté pour. Voilà. Donc il y a un double filtre. Majorité des États, majorité au sein du Parlement européen. Et donc, en plus, pour certains domaines, particulièrement sensibles du point de vue de la souveraineté, c'est l'unanimité des États qui est requise. C'est-à-dire qu'il faut que Bruxelles, Paris, Rome, enfin, toutes, je ne vais pas vous faire la liste des 27 capitales, enfin 28 encore jusqu'à fin mars, doivent être d'accord. Par exemple, en matière de fiscalité, on ne peut pas adopter une mesure fiscale à l'échelle européenne, par exemple une taxe carbone à l'échelle européenne, ou une taxe sur les transactions financières, s'il n'y a pas d'unanimité. Il faut qu'il y ait accord de tous les États. Donc Bruxelles, en fait, pas en tant que telle, pas elle seule, non. Ne peut pas décider.
Voilà une mise au point qui pourra également être portée pour réponse à la plupart de nos des questions de nos auditeurs. En fait, vous parliez aussi des compétences de l'Union européenne, notamment vous citiez l'exemple de la PAC. Y a-t-il d'autres domaines dans lesquels l'Union européenne peut décider et aux gouvernements nationaux des États membres des règles ou des choses particulières?
Alors vous avez raison de rappeler que l'Union européenne intervient en matière d'agriculture, et encore une fois pour la France c'est très important. L'Union européenne intervient aussi en matière de marché intérieur et de concurrence. Par exemple, c'est grâce à l'Union européenne que maintenant le tarif des communications par téléphone mobile en Europe est le même que si vous passez un appel en France.
D'accord.
C'est ce qu'on appelle le roaming. Donc il y a eu grâce à l'Europe en fait une suppression de cet avantage qu'avaient les compagnies de téléphonie de taxer de manière beaucoup plus importante les appels à l'étranger que les appels nationaux.
Très bien. Bon, merci Carlos. Nous arrivons au terme de notre entretien. Merci à vous de votre disponibilité et des informations que vous avez pu nous transmettre. J'espère bien entendu qu'elles seront très très utiles à nos auditeurs et nous espérons vous revoir très prochainement. Nous savons que vous êtes intervenant et maître de conférence à l'université. Deux petits mots pour conclure sur votre rôle au terme à la fac de Bordeaux.
Mon rôle à la faculté de droit de Bordeaux, c'est justement de parler d'Europe, d'expliquer l'Europe, et par exemple pour ces élections européennes, de rappeler que en fait il y a un lien au niveau du Parlement européen entre la légitimité démocratique et les pouvoirs. Le Parlement européen peut être un instrument d'autant plus fort que sa légitimité démocratique est forte.
Merci encore, Carlos. À très bientôt. Chers auditeurs, vous pouvez retrouver cette émission radio en podcast sur les ondes de votre radio préférée. Et si vous souhaitez vous informer sur l'Europe, les centres d'information Europe Direct présents sur tout le territoire de la Nouvelle-Aquitaine sont bien entendu à votre disposition. Enfin, pour poursuivre le débat, je vous rappelle notre hashtag « Make Your Europe ».